au fil des bobines par l'association Cinéphile.
Dans le cadre de la semaine L, semaine qui pourrait s'égrener tout au long de l'année, nous avons choisi de parler d'Ida Lupino. Ida Lupino, à qui nous consacrons une rétrospective inédite avec la diffusion de 3 de ses films, Outrage, Faire face et Bigamie, dont la projection sera suivie d'une rencontre avec le critique rédacteur au cahier du cinéma, Fernando Gonzo. Pourquoi avoir choisi Ida Lupino ? Parce que, même si elle fut longtemps oubliée, ce fut une réalisatrice audacieuse à qui l'on doit 8 films, films qui abordent des thèmes difficiles comme l'avortement ou le viol. Bravant tous les obstacles, elle ne fut pas seulement actrice dans les années 1940, mais aussi une grande réalisatrice, scénariste et productrice. Elle est la première femme à créer une boîte de production indépendante, The Filmmakers. Lorsqu'en 1950, elle fut admise au sein du syndicat des réalisateurs de cinéma, elle était la seule femme au sein de l'organisation qui comptait plus de 1000 membres. La seule femme parmi 1000 membres hommes. Mais commençons par sa carrière d'actrice qui fut flamboyante, bien qu'elle raconte dans son autobiographie, « Faire l'actrice a toujours été une torture ». Ida Lupino est restée dans les mémoires comme l'une des plus grandes actrices de l'âge d'or hollywoodien du début des années 30 à la fin des années 50. Elle tourna en moins de 20 ans près de 50 films. Elle a entre autres donné la réplique à Humphrey Bogart dans High Sierra et Une femme dangereuse. Le film fit finalement d'elle une star parce que la critique l'y a jugée meilleure qu'Humphrey Bogart. Elle a même joué avec Jean Gabin dans Moontide, en français, La péniche de l'amour, un film noir de 1942. Ce film avait été préparé et en partie tourné par Fritz Lang avec une scène de cauchemar conçue au départ par Salvador Dali. Et puis, il y a eu des soucis, Fritz Lang a abandonné, enfin ça a été compliqué. Mais je ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter leurs 2 voix, celle d'Ida et celle de Jean Gabin. Je l'avoue aussi en partie pour l'accent français de Jean Gabin dans sa première prestation américaine.
Good night, Nazi.
Hello, Papa.
Hello, Anna.
Fine night, isn't it?
Yeah, it's swell. Swell.
Where's the music coming from?
Oh, that's the phonograph on the other barge.
Sounds nice, doesn't it?
Yeah.
Yeah, it sure does.
Why did you come back?
Why did you look at me the way you did when I left?
Yeah. Why?
Hobo.
Hmm?
You want me to go?
Oh. I'm the one who's going.
What did I do wrong?
You didn't do anything. I swell again. I like you very much. No, but it's time for me to go, that's all.
But why, Bobo?
Well, because I'm not a man who can stay long in one place. I'm not a peasant. I'm a gypsy. And I have no intention of dying just yet.
Thank you. Bobo. You aren't making any sense.
Ask Nadzi when you see him. He'll tell you all about it. Bye, you know. And good luck.
Bobo, Jean Gabin, a sauvé Anna, Ida Lupino, de sa tentative de suicide. Elle revient le voir sur sa péniche, où elle vit en vendant des appâts à poissons. Elle a joué sous la direction des plus grands cinéastes, de Fritz Lang à Nicolas Ray, de Robert Aldrich à Raoul Walsh, qui lui donna le rôle principal dans trois de ses films les plus remarquables. Surnommée la reine de la série B, se qualifiant elle-même de Bette Davis du pauvre, et pour cause, Ida Lupino a refusé plus d'une fois des rôles taillés pour Bette Davis dans les années 40. Elle impose un personnage de fille fragile, seule au monde, d'apparence dure et scénique, mais avec un cœur tendre comme un marshmallow. Selon Martin Scorsese, un de ses grands admirateurs, de l'extérieur, elle était dure, fermée, belle avec des allures de garçon, mais ses yeux sombres étaient des fenêtres ouvertes sur une passion brûlante. Lupino incarne au cinéma au moins trois types de personnages. La femme fatale, ça se faisait beaucoup à cette époque-là, dans Une femme dangereuse. La jeune première innocente et vulnérable, ça touche aussi beaucoup. Ay Sierra, la femme indépendante, mais dont le cœur sait se donner et s'abandonner. Dans The Man I Love, réalisé en 1947 de Raoul Walsh, film noir et musical, elle campe une chanteuse de nightclub, femme libre et un peu cassée. La voici dans la chanson titre signée par George Gershwin.
Come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand, and in a little while he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Baby, I will meet him Sunday, maybe Monday, maybe now. Still I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, from which I'll never roam. For would you? And so all else above, I'm waiting for the man that I love.
Mais elle fut aussi une réalisatrice importante. À l'âge d'or d'Hollywood, les producteurs ont tous les pouvoirs. À la merci de tous les harcèlements, les actrices, moins payées que les hommes, ça se fait encore, doivent être présentes sur le plateau dès 5 ou 6 heures du matin pour des longues séances de maquillage que s'exige le glamour hollywoodien. Le studio est mené à la baguette par le redoutable Jack Warner, pas franchement connu pour sa souplesse ni pour son élégance à l'égard des femmes. Et c'est peu dire que l'attitude d'Ida Lupino l'agace. Ida dit souvent non. Non au projet de tourner de nouveau avec Bogart, sous prétexte qu'il s'est montré impoli avec elle. Non à des rôles qu'elle juge sans intérêt. Une attitude qui lui vaut de nombreuses suspensions de contrat. Peu importe, elle met à profit ce temps libre pour traîner sur les plateaux et observer le travail des techniciens et des metteurs en scène. quitte à agacer certains vieux briscards des studios peu enclins à partager leur savoir. Avec une femme, qui plus est. En secret, Ida rêve de passer de l'autre côté de la caméra, ce qui pour l'époque est une hérésie. Provocation ? Non. Protestation ? Peut-être. Ida Lupino a des choses à dire, à jouer, à montrer. Venant d'une très vieille famille de gens de théâtre anglais, elle était plus animée par l'envie de créer des spectacles que par un ego démesuré. Son père le lui avait dit. « Tu sais, nous sommes dans l'industrie des paillettes. Une fois le décor enlevé, il y a la brique. Et dessous, la terre. C'est la terre qui importe et les gens qui en sont issus. Si jamais tu perds le contact avec ces gens, ta vie perdra son sens. » À l'en croire, c'est à Raoul Walsh qui lui a conseillé de changer d'emploi et de devenir réalisatrice. Elle dit « Hors de mon temps de travail, j'ai beaucoup observé. Le département montage, le département décor, tout cela grâce à Raoul. » Elle tournera 8 films marqués par leur réalisme et leur empathie avec des personnages qui se sentent petits face au mouvement du monde moderne, à la contrainte sociale. C'est le cas dès son premier film, « Avant de t'aimer », qui traite de l'avortement en 1949. On suit le parcours d'une femme qui tombe enceinte sans l'avoir voulu et trouve le moyen de se reconstruire après avoir abandonné son enfant. Elle s'empare non seulement d'un sujet tabou avec un personnage féminin très fort, mais le film est aussi tourné dans des décors naturels avec des plans-séquences qui nous embarquent dans un destin féminin. Sa réalisation est très novatrice et très libre. Voilà ce qu'elle dit. « J'ai sans doute inventé la nouvelle vague sans le savoir. » Elle le disait au milieu des années 1960. Et Scorsese, un de ses admirateurs, comme je l'ai déjà dit, dira « Ces films marquent une date dans l'histoire du cinéma américain. » Elle réalise un film sur les conséquences psychologiques du viol, sur la bigamie, sur le handicap ou sur le kidnapping, des sujets brûlants dans le contexte de l'époque qui lui ont valu de se heurter à de nombreux obstacles. Et chaque fois, elle cherche à montrer la difficulté de vivre plutôt qu'à juger ou à condamner. Et si elle ne remet pas fondamentalement la société américaine en question, elle s'attache cependant à en décrire les failles se rangeant du côté des femmes maltraitées par la vie et des hommes ordinaires frappés par un destin contraire, personnages oubliés à l'écran à l'époque hollywoodienne. Au milieu des années 40, d'ailleurs, Roberto Rossellini lui aurait dit être surpris que le néo-réalisme ne soit pas encore arrivé aux États-Unis. Ida Lupino, elle, a eu tout de suite envie de proposer un autre cinéma dans la droite ligne du néo-réalisme italien, justement. Les personnages féminins qu'elle propose sont à mille lieues des icônes glamour et des femmes fatales telles qu'Hollywood en fabriquait. Elle inverse les codes de ce cinéma noir où les femmes sont forcément fatales, forcément dangereuses, en montrant, comme dans Outrage dont je vais vous parler, des hommes irrationnels et dangereux. Ces films abordent des sujets difficiles, on l'a déjà dit, toujours proches du quotidien, souvent tournés en décor réel, et dont la tonalité se révèle plutôt intimiste. Ida est celle qui rétablit des vérités. Et si ces films nous touchent aujourd'hui, c'est parce qu'ils portent tous un regard aimant sur leurs personnages. Abîmés, bousillés, il découvre au fil du récit un chemin vers l'apaisement. Mais j'aimerais vous parler davantage de son film « Outrage ». Lupino, Ida, y aborde un sujet audacieux pour le puritanisme américain, le viol et ses traumatismes. Anne, jeune femme indépendante, est attaquée par un homme à la sortie de son travail. Après le drame, elle tente de reprendre une vie normale, mais finit par ne plus supporter le regard de son entourage. Désormais, elle n'est plus définie que par son agression. Réfugiée dans une petite ville où personne ne la connaît, elle comprend, avec l'aide d'un pasteur, que l'événement conditionne sa vision du monde et que pour guérir, elle devra passer du statut de victime à celui de survivante. Un grand film sur la peur, la sidération et les rapports hommes-femmes. Il y a 70 ans, Ida Lupino filmait la souffrance avec une modernité âpre et glaçante. Ce film noir est un des premiers à aborder de front la question du viol, en se plaçant du point de vue de la victime. Hollywood était alors régi par le code ICE, et de ce fait, jamais le terme de viol dans le film n'est prononcé. Et on parle de, il y a des euphémismes, des périphrases, mais jamais le mot viol n'est prononcé. Blasphème, sexe, violence, homosexualité, toxicomanie ou encore prostitution sont des thèmes souvent traités par le cinéma aujourd'hui. Mais pendant plus de 30 ans, ils furent formellement interdits. C'est l'industrie américaine du cinéma qui a mis en place le code ICE en 1934. L'objectif principal de celui-ci était en fait d'apaiser les groupes catholiques ainsi que le public choqué par les scandales hollywoodiens. On a interdit de manière très stricte le blasphème. Pour ce qui est de la sexualité, de nombreuses choses ne doivent pas être montrées, telles que l'adultère, les scènes de passion, le viol ou encore la naissance d'un enfant. Un grand nombre de séquences des films d'Ida Lupino devront être remaniées ou supprimées. Pourtant, dans Outrage, c'est bien l'échec d'une société qui mène au crime, une société coupable de négligence criminelle, que dénonce avec force Ida Lupino. 3 ans plus tard, avec The Bigamist, la réalisatrice posera de nouveau son regard féministe et lucide sur la société américaine, poursuivant ainsi un travail entamé avec « Avant de t'aimer » et « Faire face ». Outrage montre le dur passage à l'âge adulte de Anne, symbolisé par le viol qui lui fait brutalement dire adieu à la fois au monde de l'enfance et à la vie familiale idéale qu'elle s'était imaginée. Le talent pour la mise en scène d'Ida Lupino est remarquablement visible au sein de ce film, notamment avec cette scène de fuite d'Anne qui tente d'échapper à son violeur, où le rythme de ses plans larges et longs donne à cette course-poursuite de plus de 5 minutes un suspense terrible jusqu'à sa conclusion abominable.
Hey, beautiful!
Try to concentrate, Miss Walton. Try to remember.
Can't remember. I can't. I ran away from home. I had to.
Don't you think you ought to let your family know where you are? And we all have to stop running sometime. We have to face ourselves.
Les axes de caméra sur ces rues poisseuses et les ombres portées exacerbées par le grain du noir et blanc rendent un mélange d'expressionnisme et de réalisme permettant à la réalisatrice de représenter l'indicible et préfigure sa volonté de réaliser un film noir, ce qu'elle fera 3 années plus tard avec Le Voyage de la peur. C'était quand même une sacrée pointure. Elle est morte en 1995, sans jamais avoir été célébrée, ni même interviewée, comme la pionnière, l'avant-gardiste qu'elle était. Et pourtant, beaucoup de réalisateurs, plus tard, seront des grands admirateurs, comme Clint Eastwood ou Bertrand Tavernier, puis bien d'autres. Nous vous donnons rendez-vous au cinéma Les Lobbies pour une semaine L, avec La fiancée rebelle d'Hollywood, du 5 au 13 mars prochain. Samedi 5 mars à 16h, on ouvre le bal avec Bigamy, une séance animée par le critique Fernando Gonzo qui s'attardera sur le travail précurseur de la réalisatrice, productrice et actrice. Outrage sera diffusé lundi 7 mars à 18h, dimanche 13 mars à 20h30 et Faire face, lui, sera diffusé le jeudi 10 mars à 18h. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site du cinéma Les Lobbies et aussi dans notre revue Travelling qui va sortir très bientôt. Pour clore, j'aimerais vous faire entendre sa voix éraillée par la cigarette et le scotch dans ce rôle de chanteuse loyale, à la fois fragile et forte, de La femme aux cigarettes de Jean Negulesco, et on comprend que François Truffaut se soit inspiré d'elle pour écrire La sirène du Mississippi. À bientôt dans les salles obscures.
It's 2:45. There's no one in the place except you and me. up, Joe. I've got a little story you ought to know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Make it one for my baby and one more for the road. I got the routine, so drop another nickel in the machine. I'm feeling so bad, wish you'd make the music dreamy and sad. Could tell you a lot, but you gotta be true to your code. Make it one for my baby and one more for the road. You'd never know it, but buddy, I'm a kind of poet, and I've got a lot of things to say. And when I'm gloomy, you've simply got to listen to me until it's talked away. Well, that's how it goes. And Joe, I know you're getting anxious to close. So thanks for the cheer. Hope you didn't mind my bending your ear. This torch that I've found must be drowned, or it soon might explode. Make it one for my baby and one more for the road. That long, oh, that long, long road.
Is she good?
She does more without a voice than anybody I've ever heard.
Honey, you are wonderful, terrific.
Well, you're crazy, you know that?
Come on, give him another one, won't you? Well, wise guy, is she good?
She's good.
And little Jeff Dieta, don't forget that. She'll be the biggest hit we ever had. She'll double our business in the bar. Well, come on, admit it.
I admit it.
You know what I think I'll do? I'll knock out that wall in the back and I'll double the bar.
Now, wait
we'll have
minute.
The swellest joint west of
well,
Chicago.
Don't move your head,
250?
Jeff.
Oh, she's a steal. You know, I'm beginning to get interested in this business.
Oh, thanks, Sam. Bad for my voice.
You were great.
Surprised?
Well, to tell the truth, I was.
Ah, so was I. You're a terrific tonic for lonely people, Sam. Good to talk to.
Yeah. Everybody's lonely. Now, there's a guy comes in here every night, takes that stool at the end of the bar.
Stevens, you're good. You're a hit. I don't have to tell you they like you.
Fine. And you?
Best we ever had.
Think I'm worth the money?
Got to admit, Gypsy's got the top end of the bargain.
Still want
to
rush me out of town, hmm?
Now, look. I said I made a mistake. I'm sorry.
Okay, think nothing of it.
Come on, kids. Let's laugh it off. Sam, bring us a special, huh?
No, thanks. I got to count up the profits.
I love that guy. He's a great kid. Don't get him wrong.
No, I don't. Well, who do I get my weekly check from? You or Bashful Joe?
Bashful Joe. You know, he's not going to like that.
So what? Tell me, Jeffy, what do you do around here between songs?
Anything you like to do, honey. Just name it.
Oh, I don't know. For laughs, how about me learning how to bowl?
Sure.
Who's the coach?
Coach? Susie. Honey, I've got the greatest coach in the world for you. You know, I'm going to love this. You just leave it to Jeffy.
You're a million laughs, you know that.
Again, this couldn't happen again. This is that once in a lifetime. This is the thrill divine. And what's more, this never happened before. Though I have prayed for a lifetime such as you would suddenly be mine. Mine to hold as I'm holding you now, and yet never so near. Mine to have and then now.
Something, Pete? You hit him like you mean it.
Well, Jeffy's bound to find a singer once in a while.
Not bad, not bad at all. Donna, what do I have to do to beat Fred?
Fair, anyway. I don't like it.
That's the first time I ever interrupted a game for anything.
I like it. There's still no excuse for that dress.
What did you say your name is?
You see that mob, kid? I told you she'd double our business at the bar. Tell me I didn't make a good deal.
Did you? How are you doing?
I can wait.
Maybe a long wait.
Got nothing else to do.
Serious?
Maybe. Oh, honey. Pete, got a grand job for you. Lily wants to learn how to bowl. And here's a boy who can teach you. Best bowler in the state. And the best instructor.
I'm afraid not.
Why not?
I've got too much work to do.
What are you doing now?
Keeping the alleys warm.
Don't bother, so I take up knitting.
Wait a minute. Pete, I ask you to teach Lily. For me. I don't ask you much. This is something I want you to do.
Now look.
Are that hard to take?
I didn't say you were.
Okay, then it's all settled. I knew you.
Anytime when you're not busy. Around noon?
Okay. Around noon.
Fix her up with a pair of shoes, will you, Pete? And, you'll need slacks. Something like that.
I know how to dress. You killed me.